Ah, je n'ai pas mis mon micro. Attendez. Putain, comment je le mets sur ce pull? Je vais le mettre comme ça. On va voir si ça marche. Ça va, vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Petit check qualité 5 sur 5. Merci Samuel. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Que vous avez la pêche. Allez, on commence pendant que la chatroom se remplit. On va remercier ce matin Andreas, Valentin, Swap qu'on remercie également parce que c'est grâce à lui qu'on a pu tester l'iPhone X en même temps que tout le monde. On remercie également Nicolas et on remercie Zatnictel. Merci à vous les tipeurs depuis 7 mois. Sans vous, nous ne sommes rien. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien réveillés. Salut Sylvain, bah ça tombe très bien, tu es dans la chatroom. Eh bien écoute, on en profite pour te remercier deux fois. Voilà, j'ai ma magnifique tasse Kenporg hein, ce matin pour nous accompagner. Hein, je fais très bien le cri du Porg. Disney a failli m'embaucher et puis finalement une sombre histoire d'un mec moins cher. Bref, tragédie, tragédie, tragédie. Mais on va pas commencer par des tragédies. Oui, non, on va pas commencer par des tragédies ce matin. Je suis en train de me dire qu'est-ce qu'on a comme mauvaise nouvelle ce matin. Salut Marion. Ah, oh, bah ça fait plaisir que tu sois là ce matin. Salut Alain, salut Mickaël, salut Samuel. Aujourd'hui, de quoi on va parler? Eh bien, on va parler d'assistant personnel. Pour une fois, j'ai deux articles pour commencer, parce qu'il y a deux, à mon avis, très bonnes nouvelles pour les assistants personnels. Il serait bientôt possible d'interpeller Google Assistant de la façon que vous voulez. Hein? Donc, je vais enfin pouvoir prendre un Google Assistant et l'appeler mon con. Hein? Salut mon con, éteins les lumières. Hein? Au lieu de chaque fois donner la formule magique qui déclencherait bref, vous la connaissez, on va pas faire la blague. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et une autre nouvelle, c'est que Alexa d'Amazon débarquerait en France dès avril prochain. Donc ça aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle dans la bataille à trois, puisqu'on sait aussi que le HomePod arrive à peu près dans ces dates-là. Dans la bataille à trois des assistants personnels, on va se battre pour vous servir. C'est quand même ou pour pirater vos données, enfin pour prendre vos données, selon où tu te places. Bref, on continuera, on parlera de Facebook qui bannit les publicités sur les crypto-monnaies. Alors j'ai déjà entendu n'importe quoi ce matin sur Twitter. Je reprécise, et chaque mot est important, Facebook bannit les publicités sur les crypto-monnaies. Et pas, comme je l'ai lu ce matin, Facebook bannit les crypto-monnaies. Hein, il y a un moment, la course au putaclic, ça va, mais raccourcir les phrases et vouloir dire autre chose, c'est pas bien, les gars. Bref, on parlera également de Samsung. Samsung qui affiche de très très beaux résultats, mais à y regarder de plus près, la division smartphone se porte de plus en plus mal. Hein? J'en profiterai aussi pour parler un petit peu d'Apple qui aujourd'hui va présenter ses résultats et on aura enfin le fin mot. Est-ce que l'iPhone X c'est une catastrophe et il va s'arrêter, il se vend mal ou est-ce qu'il s'est pas trop mal vendu? On aura normalement la réponse demain dans le Techscope de demain. On parlera également de Square, la deuxième société de Jack Dorsey, qui annonce qu'ils vont permettre d'acheter et de vendre du Bitcoin directement, instantanément. Et ça, c'est plutôt une nouvelle intéressante parce que vous savez que les délais de transaction sur les Bitcoins sont un des freins, avec Cash App, qui est une fonctionnalité de Square. On parlera également d'un chercheur français qui a envoyé une facture de 350 000 dollars à Facebook pour l'utilisation de ses données personnelles. On verra comment il est arrivé à cette somme et en quoi je trouve cette initiative extrêmement intéressante, même si la probabilité qu'il se fasse payer est infime, voire nulle. On parlera, et ça va être la joie, je sens dans la chatroom. Attention, préparez-vous à exprimer votre joie avec autant d'émoticônes que vous pouvez. Nintendo annonce officiellement Mario Kart sur les smartphones. Un tonnerre d'émoticônes. Oh, vous êtes lent, hein, la chatroom. Yeah! L'instant des copeaux, premier à réagir. Et on terminera par le trailer du prochain film de Steven Soderbergh, celui qui a tourné Ocean Eleven et Traffic notamment, et qui est entièrement tourné à l'iPhone. Et c'est intéressant comment il en parle de son initiative, parce que il n'a pas tourné à l'iPhone pour des raisons ni budgétaires, ni pour faire de la pub pour son film. C'est ça qui est assez intéressant. Un nouvel iPhone SE ou pas? Oui, il y a beaucoup de spéculations, de rumeurs sur futur iPhone SE. Pour moi, il n'y a pas de quoi faire un article encore. Je vous en parlerai peut-être en fin de semaine ou début de semaine prochaine. On verra. Mais j'ai choisi de ne pas vous en parler aujourd'hui, ça aurait fait trop d'articles. Hein? De toute façon, on s'en fout des iPhones. C'est juste pour les pigeons. Balance ton porg. Ah, c'est pas mal ça, balance ton porg. Hashtag balance ton porg. Hein? Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je vais y passer. Bref. Non, j'ai plein de mauvaises blagues qui m'arrivent dans la tête. Je les chasse. Ce matin, je serai focus. Je ne me laisserai pas influencer par la chatroom. Hein, je ne vous regarde même pas. Parce que quand même, j'aime... c'est le mec qui dit, je vais rester focus, mais ça y est, je m'apprête à faire un premier fork. Non, mais... Hein, hier, vous étiez là. Ouais, Marion, focus, focus. Eh, c'est vous qui arrivez. J'arriverai pas à dire le nom. Vous n'arrivez. Oh, j'arriverai pas à le dire. Bref, c'est vous qui dissipez les présentateurs. Hein, en partant sur d'autres sujets dans la chatroom. Donc, chatroom, focus sur les articles. Hein, on part pas en sucette. Bref. Bon, la honte, j'ai buté sur un mot ce matin. Allez, on commence tout de suite ce Techscope. Je crois que j'ai rien oublié. On va parler effectivement d'assistants personnels. La grande bataille, c'est pour nous tester, pour nous améliorer. Eh oh, hein, à d'autres. Hein. La grande bataille des assistants personnels qui arrive et qui, en tout cas, en Europe et en France spécifiquement, va se passer manifestement au printemps, puisque... Une mise à jour à venir déjà de Google Assistant va donner à l'utilisateur l'occasion de personnaliser son assistant personnel en lui donnant un petit nom et ne pas être obligé d'utiliser la phrase clé, hein, la phrase clé que je vous permets de taper dans la chatroom, mais que je ne me permettrai pas de prononcer afin de ne pas le déclencher chez vous. Donc, vous allez pouvoir donner le nom de Jarvis, vous allez pouvoir le donner le nom de Moncon, hein, moi c'est le nom que j'ai de baptême que j'ai prévu pour mes assistants personnels. Vous allez pouvoir l'appeler Oscar, vous allez pouvoir l'appeler comme vous voulez, le nom que vous voulez. Et le déclencher comme ça. Moi, c'est quelque chose, je le dis depuis le début de ces assistants personnels, si on ne peut pas les personnaliser, c'est con à dire, mais on se les approprie déjà beaucoup moins. Et très honnêtement, j'ai pas envie le matin de demander à un GAFA de me préparer le café. Quelque part, ça me dérange cette idée. Ça me dérange déjà l'idée de devoir donner un nom imposé. Oui, ça peut être ma couille hein, aussi, hein, tu fais ce que tu veux. Pense quand même que si tu as des invités et que tu fais appel à ton assistant personnel, il faudra l'appeler par son nom. Donc, voilà, il faut quand même penser à ça. Qu'est-ce que j'étais en train de dire, du coup? Oui, du coup, c'est... Voilà, moi, j'ai pas vraiment envie de prononcer le nom de Google le matin. En plus, je pense quand même que ça renforce effectivement tous les freins qu'on peut avoir pour ses assistants personnels. Freins qui, à mon avis, sont tout à fait légitimes. Dans quelle mesure on est prêt à donner nos données personnelles afin de bénéficier de services personnalisés. Et le fait de devoir... incanté, parce qu'on est dans le côté sésame, ouvre-toi. de devoir faire une incantation de cette multinationale qui est Google pour avoir un service, quelque part, je pense qu'à long terme, même à moyen terme, ça aurait été un frein pour l'adoption des assistants personnels. Si on peut le personnaliser, si on a un meilleur contrôle peut-être sur les données, ou bref, c'est un autre débat, c'est peut-être quelque chose que j'envisagerais plus dans ma vie. Mais je suis comme la plupart d'entre vous, il y a quand même des choses qui me froissent un peu. Est-ce que je suis prêt à révéler autant de choses sur ma vie privée pour bénéficier de services qui, pour l'instant, ça va, quoi. Allumer mes lumières, je peux quand même appuyer sur un bouton, même si maintenant, c'est le bouton de mes You, machin et tout. Pour l'instant, pour être honnête, mais j'en ai pas encore testé hein, d'assistant personnel, il y a quand même encore un petit côté gadget. Après, je suis le premier à utiliser des, par contre, sur mon smartphone, l'assistant personnel. Donc, cochon qui s'en dédie. Pour les personnes très âgées, tu sais, pour avoir, tous ceux qui ont installé de la technologie pour les personnes très âgées, ce qui nous semble simple. Pour les handicapés, je suis d'accord. Pour les personnes âgées, je sais pas. Tu sais, changer les habitudes quand tu as vécu plusieurs décennies, c'est pas facile. Et c'est absolument pas une critique d'ailleurs aux personnes âgées. Hein. N'oubliez pas que tout le monde sera une personne âgée et que ils ont aussi parfois un certain bon sens que nous technophiles. Enfin, moi, je sais que voilà, mes parents me disent parfois des choses par rapport à mon enthousiasme technologique qui me ramènent les pieds sur terre, quoi. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? La question mérite d'être posée. Moi, je dis oui, bien sûr. Mais c'est bien sûr que j'en ai besoin que mes lumières changent de couleur et que je puisse les régler à la voix. Mais bon, au fond de moi, je me dis, j'ai longtemps vécu sans. Ah, ça, c'est... Par contre, on a besoin du Texcope, ça, tout le monde est d'accord. Ça, c'est une évidence. Non, on est bien d'accord. Bref, plutôt... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, la chatroom. Est-ce que vous, vos assistants personnels, que vous en ayez ou que vous en ayez pas, c'était vraiment quelque chose que vous attendiez, le fait de pouvoir le rebaptiser? Non, non, vous en foutiez, non, non. Ah oui, d'accord, il est avec moi, en fait. Ce que j'adore dans l'idée, c'est que tout le monde va dire « Oh, génial, on ne sera plus obligé de dire Google, ça va être cool. » Et 80% des gens vont l'appeler Jarvis. Ouais, je vois qu'on n'est pas beaucoup, finalement, à se préoccuper de cette histoire de baptiser... notre assistant personnel. C'est du design émotionnel, tout à fait, Malva. Et c'est, pour moi, c'est important. Ça me fait... Hein, je switch, hein, je pars sur un autre sujet. Mais hier, pour tout vous dire, j'étais chez les gens de chez Shadow. On discute pas mal en ce moment. Je vous dis pas sur quoi, mais on discute pas mal en ce moment. Et ce que je leur disais, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, ce que je trouve intéressant dans le cloud computing, et notamment le cloud computing de gaming, ou en tout cas une approche, on va dire, ludique, loisir du PC, c'est que ce que fait, par exemple, le Shadow PC, c'est un transfert émotionnel de l'émotionnel qu'on peut avoir pour son ordinateur physique. Et moi, il y a des ordinateurs dans ma vie auxquels je me suis attaché émotionnellement, j'ai pas honte de le dire, pas tous. Mais je sais que, par exemple, mon premier MacBook Pro, j'y tenais vachement. J'ai eu certains PC. Je les trouvais chouettes. J'avais un attachement, comme on peut avoir un attachement à certains objets. Avec le Shadow PC, c'est-à-dire ton PC déporté, tu fais un transfert émotionnel de cet émotionnel que tu avais pour du hardware à, finalement, une équipe de gens. Je dormais avec, je me souviens. Oui, mais je dormais avec toi aussi, Pascal. Et ça, tout le monde s'en souvient. C'est ça qui est intéressant, je trouve, avec le Shadow PC, c'est que l'affect qu'on peut avoir pour l'équipe Shadow, et mieux on les connaîtra, l'équipe Shadow, plus facile sera le transfert émotionnel entre ta machine physique chez toi et une puissance déportée. Et l'inverse avec l'iPhone qu'on m'impose au boulot. Oui, j'ai aussi des objets technologiques que j'ai testés. Salut Trivian, je l'appelais mon pauvre bouc. Moi, j'aimerais qu'on m'impose un iPhone 10. Pas bête, l'instant des copeaux. Allez, je continue juste sur les assistants. L'autre bonne nouvelle, c'est que ça y est, enfin, enfin, on va pouvoir avoir Alexa en France. A priori, il arriverait dès avril prochain, dans notre contrée. Donc, on va pouvoir, comme ça, avoir une borne chez nous qui va acheter des trucs sur Amazon tout seul avant même qu'on y pense. Non, j'exagère un peu, mais c'est le futur quand même. Mais c'est un autre sujet. Bientôt, vous ne réfléchirez même plus à ce que vous voulez acheter. Amazon vous livrera 3 produits et vous n'aurez que d'autres choix que d'en choisir un des 3. Et après, le livreur partira avec les 2 autres. Pour moi, c'est la conso du futur. La conso forcée, un bon moyen de relancer l'économie. Bref, je pars sur un autre sujet. Donc, ça, c'est quand même important parce qu'on était là à voir que Alexa marchait très, très bien au niveau des assistants personnels. On envoyait plein de CES et tout. Mais ça fait bien un an et demi qu'on attend des annonces sur Alexa en France. Alors, certes, ça prend du temps à traduire, c'est bien évident. Mais quand même, un an et demi pour traduire avec le fric qu'ils ont, Amazon, hein, avec tous les câbles que je leur achète en ce moment, hein. Pourrait se payer un traducteur quand même. Merde. Bref, ça va arriver en avril. Donc, la grande bataille des assistants, Oscar versus Jarvis versus Alexa versus Siri versus. Comment ça s'appelle chez Samsung déjà? Le nom du chien battu là? Ah merde. Aidez-moi, l'assistant personnel de Samsung. J'ai un trou. Bixby, voilà, Bixby, le chien battu. Paf, le chien. Donc voilà, la bataille risque d'être rude et ça va arriver ce printemps. Est-ce qu'on fera un test sur la chaîne? Peut-être, peut-être pas, on verra. Aujourd'hui, je ne promets plus rien sur la chaîne parce que c'est vrai que je promets trop de choses que je n'arrive pas à faire. Ça, c'est mes bonnes résolutions de 2018, c'est d'arrêter de vous promettre des vidéos que je ne fais pas. On verra bien. C'est pas une question de traduction, mais de localisation de culture. Non, mais je sais bien, je plaisantais. Je sais que c'est pas facile. On le voit d'ailleurs avec Siri, qui est beaucoup plus performant en anglais qu'en français. Y a la contextualisation aussi du langage qui est importante dans la compréhension. J'ai un Woody, c'est ça. Ah oui, c'est mon nouveau Woody. Il est bien, il est super technique en fait. Il a un col intégré et tout, avec une chouette capuche. Voilà. La classe. Cadeau de Noël de ma maman, enfin de mes parents. Vous en foutez, moi aussi. Enfin non, je m'en fous pas, mais c'est pas très intéressant. Siri est tellement une merde pour comprendre les noms anglais comme. Ah oui, moi, c'est le plus gros problème que j'ai avec Siri. Quand je demande à Siri, vas-y, mets-moi une vidéo de Naotech, alors là, n'importe quoi. Quand tu mets la capuche d'un hoodie, tu disparais et tu deviens Houdini. Il y a un côté de moi qui a envie de dire tu sors, mais il y a un autre côté de moi qui dit pas mal quand même. Salut Guillaume, si c'est la première fois que tu nous regardes en live, eh bien, bienvenue à toi. Bref, très très bonne nouvelle, effectivement, sur le front des assistants vocaux. On verra bien ce qui se passera au printemps. Petite annonce ce matin, petite annonce pour les tipeurs Platinium, spécifiquement, hein, les Platinium. Samuel vous a mis en place le thread pour les questions prioritaires. Donc, vous savez, en tant que Platinium, que vous avez énormément de privilèges. notamment celui de passer devant tout le monde pour poser vos questions le matin. Donc, si vous avez des questions à poser, des questions prioritaires en février, il suffit d'aller sur le Slack, dans la chatroom privative ultra fermée avec plein de verrous, réservée au Platinium, avec un super garde du corps bodybuildé qui à l'entrée dit « T'es Platinium ? Non, tu dégages. » Enfin bref, la VIP room, hein, vous la connaissez, où il se passe des choses. Mais on n'a pas le droit d'en parler. Hein. Ce qui se passe chez les Platinium reste chez les Platinium. Enfin, si vous voulez le savoir, il suffit d'augmenter votre Tipeee. Bref, en tout cas, vous allez pouvoir poser vos questions prioritaires. C'était la seule annonce que j'avais à vous faire. Si ce n'est d'ailleurs que les gens qui sont sur le Slack, vous allez avoir un contrôle qualité aujourd'hui. J'ai une vidéo à vous soumettre aujourd'hui. Donc dans la journée, vous allez pouvoir valider une vidéo que je vais publier ce soir. Et non, je ne dirai pas ce que c'est. Oui, parce que c'est un des privilèges aussi de ceux qui, à partir de 4 euros, ont accès au Slack, c'est qu'ils font un contrôle qualité sur les vidéos avant que vous les voyez. C'est impressionnant, la zone Platinium. Ah oui, non, mais c'est un lieu de débauche. C'est même c'est une orgie permanente, en fait, chez les Platinium. Le Slack, c'est un peu notre forum privé qui est réservé à certains de nos tipeurs. Enfin, les tipeurs à partir de Gold ont un accès effectivement à un forum spécial pour les contributeurs. Mais bon, les Platinium, hein, on est bien d'accord, ce qui se passe dans la Platinium Room reste dans la Platinium Room. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de chats porn, hein. Beaucoup de photos de chats quand même. C'est... J'espère qu'on ne va pas nous tomber dessus là-dessus parce que ça va être difficile à justifier. Je pensais que Jérôme était bon en vidéo, mais il est nul. Ah non, mais tu as raison. C'est les tipeurs du Slack qui corrigent. Et d'ailleurs, bientôt, ils vont faire le montage eux-mêmes. Tu payes 4 euros et derrière, tu fais le montage. Elle n'est pas belle, la vie ? Hein ? Moi, je dis, c'est ça, le nouveau business. Faut payer pour travailler. Bref, chat magouille pas mal. Pas mal, pas mal le jeu de mots, pas mal. Allez, on continue. Je suis en train de perdre du temps, il est 8h24. On va parler effectivement de crypto-monnaie, mais cette fois du côté de Facebook. Facebook annonce qu'ils vont bannir les publicités sur les crypto-monnaies. Attention, pas de dire, comme j'ai lu ce matin sur certains Twitter précoces, Facebook ne bannit pas les crypto-monnaies. De toute façon, il n'y a pas de crypto-monnaie a priori sur Facebook directement. Il bannit les publicités. La raison est, c'est pas anti-crypto-monnaie. C'est que le problème, c'est que dans la traînée des crypto-monnaies, il y a quand même de pas mal de trucs un peu shady, malhonnêtes, des montages financiers frauduleux. On a eu l'affaire BitConnect il n'y a pas très longtemps. Disons que beaucoup, comme il y a un engouement en ce moment, et si je peux me permettre un avis personnel, un engouement irrationnel, attention, alors, avant de me, parce que alors, je me suis pris des vents hier par rapport à ce que j'ai dit sur les bitcoins, ne me mettez pas l'étiquette anti-bitcoin, vieux réac à la con, n'y crois pas, va pleurer dans 3 ans quand nous, on sera des milliardaires. C'est un peu comme ça qu'on me catalogue. Je précise les choses. Les crypto-monnaies, je trouve ça intéressant. Merde, comment on appelle ça ? Le chain... si, le bitchain. Merde. Ah, ça y est, j'ai un trou. Ouais, franchement, problème juste sur mes mots anglais. J'ai une excuse, hein. Ma langue maternelle n'est pas le français. Donc voilà, je me permets de... Blockchain, merci. Je me permets de dire des mots anglais. Non, n'en déplaise. Blockchain, oui, merci. Le blockchain, j'y crois à fond. Et je pense, comme beaucoup d'enthousiastes des crypto-monnaies, que le système bancaire doit exploser. doit exploser. Ah, pardon, si j'ai. Pardon, problème, c'est peut-être pas toi qui disais ça. Bon, c'est pas grave. Désolé, hein, parfois je file des baffes et ça part et c'est pas le bon. Désolé. Hein. J'y crois, les crypto-monnaies, c'est hyper intéressant. Mais l'enthousiasme aveugle, je le critique aussi. Et je trouve qu'aujourd'hui, mais vraiment aujourd'hui, hein, cette semaine, enfin ce mois-ci, depuis quelques mois, il y a un enthousiasme irrationnel pour les crypto-monnaies et j'entends des trucs qui me font bondir. Et surtout, ce qui me fait peur, c'est que je suis en train de voir des moutons et des cochons partir à l'abattoir. Certains m'ont dit, oui, mais il n'y a pas de différence à toi, tes vidéos, tu dis aux gens d'acheter tel ou tel produit tech, et nous, dans nos vidéos, on dit simplement d'aller acheter ces bitcoins ou ces crypto-monnaies à tel ou tel endroit. Pour moi, il y a une différence fondamentale. On est en train de parler vraiment de l'argent et du placement dans des actifs des gens, et que en faisant des vidéos comme ça, vous vous placez comme un conseiller bancaire, boursier, mais est-ce que vous prenez les responsabilités qui vont avec? C'est la question que je pose. Moi, je sais que personnellement, après réflexion et conseil aussi de Marion, je ne veux rien avoir à faire avec la manière dont vous placez votre argent. Je n'en veux aucune responsabilité là-dessus. À une époque, j'avais caressé l'idée de faire quelque chose sur les actions, puisque je boursicote un petit peu. Mais en fait, c'est quelque chose que je ne ferai jamais. Parce que c'est pour moi, j'ai pas les compétences et j'ai pas envie. Alors, on me dit quelle responsabilité? Bien évidemment, il y a des bancs. Enfin, les professionnels ne prennent pas toujours leurs responsabilités non plus. Mais après, c'est une façon de voir les choses. Voilà, moi, je ne veux pas être mêlé à ce que vous faites de votre argent. Je pense que en termes d'investissement, on peut amener de la pédagogie. Et c'est pour ça que je dis que c'est très, très bien que plein de gens parlent de crypto-monnaie et donnent des conseils, amener de la pédagogie pour aider les gens à prendre leurs propres décisions. Mais pousser les gens à des décisions sur des sujets comme ça, bah oui, ça me gêne. Et en plus, ce côté, dès qu'on lève le moindre doute sur les crypto-monnaies en ce moment, on a un groupe de personnes qui nous agressent systématiquement et automatiquement en nous traitant de mecs qui n'ont rien compris. Vous allez rester pauvres, vous êtes des vieux cons avec votre système, etc. Désolé, on a le droit de débattre, on a le droit de ne pas être d'accord avec vous, on a le droit d'être prudent, on a le droit d'être sceptique. Et être prudent et voire un peu sceptique ne veut pas dire qu'on n'y croit pas non plus. Bref. Voilà, c'est un avis. Et j'avoue qu'en ce moment, je donne des infos parfois négatives sur les. Mais c'est aussi pour rétablir la balance. Je trouve qu'il y a trop d'infos qui sont trop positives, en fait. Bref, j'en reviens à Facebook. Merci Vincent de me ramener dans le droit chemin. Facebook a décidé effectivement d'interdire toutes les pubs concernant les crypto-monnaies et notamment comment acheter des crypto-monnaies, parce que aujourd'hui il y a effectivement beaucoup, vu la mode autour des crypto-monnaies, beaucoup de services frauduleux, et même les gens qui s'y connaissent hein, en crypto-monnaies et qui investissent le reconnaissent eux-mêmes. Il y a des gens qui se mettent dans la traînée des crypto-monnaies et qui en profitent pour monter des pyramides, pour monter des affaires très frauduleuses autour de cet engouement et profiter de la naïveté des gens en promettant monts et merveilles. Et donc, pour éviter effectivement un backlash là-dessus, et je pense que là, pour le coup, Facebook a raison, ils bannissent toutes les publicités sur les crypto-monnaies. Ouais, il y en a pas mal, des arnaques. Bah, tu vois, après, les gens n'ont pas la même impression sur les crypto-monnaies selon probablement les gens que tu suis. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un over-enthousiasme sur les crypto-monnaies dans les flux auxquels je suis abonné, que ce soit les gens auxquels je suis abonné sur Twitter ou ce genre de choses. D'autres vont trouver que c'est over-sceptique. Donc, ça dépend qui tu suis. Caribou, tu es en retard. C'est pas bien. Quand tu es en retard, tu te fais discrète, tu te planques dans un coin. Et tu fais, ah, moi qui suis là depuis le début, je trouve quand même que, voilà, quoi. Les gens qui sont dans la tech sont à fond, le reste est sceptique. C'est un peu ça. C'est schématique, mais c'est un peu ça. Allez, on continue, on va parler de Samsung. C'est Geoffrey, oui, pas tapé. On va parler de Samsung. Samsung qui a affiché un excellent quatrième trimestre en résultat financier, quatrième trimestre 2017. Mais quand on y regarde de plus près, sa division mobile se porte de plus en plus mal. Qu'est-ce qui se passe donc chez Samsung? Serait-il comme Apple en train d'aller très mal? Et encore, Apple. On sait pas, on en saura beaucoup plus demain sur Apple. Apple publie des chiffres officiels normalement aujourd'hui. Je pense que ça sera dans l'après-midi. Donc on va pouvoir voir un petit peu ce qui se passe. Est-ce qu'il y a du rififi? Est-ce qu'il y a des pépins dans la pomme? Est-ce que comment se compote la pomme? Arrête, Jérôme. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de parler de Samsung. Oui, on s'aperçoit effectivement que leur division mobile ne se porte pas très bien. Et pourquoi donc? Est-ce qu'ils font des mauvais smartphones? Non, c'est pas vraiment ça le problème. Mais c'est que la concurrence est de plus en plus féroce. Et notamment, on sait que Samsung a perdu sa place de leader du marché des smartphones. Parce que oui, c'est Samsung qui dominait le marché des smartphones. Et c'est Xiaomi qui est devenu leader. Et c'est plus Samsung. Et d'une manière générale, c'est pas tant que les gens achètent moins de smartphones, mais ils les renouvellent beaucoup moins souvent. Donc le cycle traditionnel des smartphones, on vous sort un nouveau modèle sous les 6 mois, une itération tous les ans et une itération tous les 6 mois, ne fonctionne plus. Les gens ne changent pas de smartphone tous les 2 ans. Ça commence à se tendre plus vers. Parce qu'avant, le cycle, c'était ça. Un nouveau smartphone tous les ans. Et on avait, je fais très schématique, la moitié des consommateurs qui renouvelaient leur smartphone tous les ans. L'autre moitié, l'année d'après. Le cycle d'un smartphone était à peu près de 2 ans. Les cycles aujourd'hui de smartphones vont beaucoup plus vers les 3-4 ans. Voire plus dans le cas d'Apple. Et c'est pour ça aussi les raccourcis sont faux. Il y a des choses que Apple, enfin l'iPhone reste populaire auprès des gens qui aiment les iPhones. Simplement, ils gardent leur iPhone plus longtemps. Phénomène qui va encore être aggravé par le changement des batteries qui est devenu peu cher chez Apple. À 22 h heure de Paris pour les résultats de la bourse de New York. C'est pas la bourse qu'il va falloir regarder. Ça va, c'est, enfin, la bourse réagir, tu sais, la bourse réagit pas toujours directement derrière les annonces, de mon expérience. Hein. Mais effectivement, on pourra regarder. De toute façon, je crois que l'action Apple, elle va pas super bien déjà. Et il est probable, je pense, qu'Apple n'atteigne pas les résultats escomptés, donc risque d'être un peu chahuté à la bourse. On verra. Ça coûte trop cher pour changer tous les 2 ans. Il y a effectivement le fait qu'il coûte trop cher, mais je pense qu'il y a le fait aussi que, mine de rien, tous les constructeurs de smartphones ont mis des composants. Enfin, mettre des composants de mauvaise qualité dans un smartphone devient de plus en plus dur. Il y a de moins en moins de coques en plastoc qui pétaient rapidement. Alors oui, les vitres restent une fragilité, mais combien de personnes autour de vous vivent un an, voire plus, avec un smartphone avec une vitre explosée? Donc voilà, je crois qu'il y a aussi notre enthousiasme, on est moins excité par les smartphones. Parce qu'aujourd'hui, les innovations technologiques sur le smartphone sont moins excitantes qu'avant. Il y a moins de changements, quoi. Est-ce qu'on va vraiment changer de smartphone pour avoir un petit peu plus de lumière sur ses photos? Est-ce qu'on va changer de smartphone pour avoir un petit peu plus de puissance? On n'en manque pas sur les smartphones aujourd'hui. Enfin bref. Les smartphones vitrés ont moins de DAS, oui, que ceux en alu, effectivement. Bah, c'est difficile de révolutionner le secteur tous les ans, mais vous savez, c'est un phénomène ultra classique de n'importe quel marché. Le smartphone, depuis déjà 2 ans, est sorti d'un marché fortement innovant et avec des croissances à 2 chiffres pour un marché beaucoup plus mûr, avec des consommateurs plus avisés et plus sages. Et c'est peut-être ça, on le verra. Si Apple a mal vendu l'iPhone 10, si c'est confirmé, ça sera la preuve de ça. C'est que malgré des innovations que moi je juge quand même importantes sur l'iPhone 10, les gens n'ont pas jugé utile de prendre le train en route, quoi. Ils ne sont pas plus excités que ça. On verra. On verra bien, on verra bien. Mais voilà, il n'y a pas qu'Apple qui aurait éventuellement des problèmes. Samsung, a priori, en a aussi. Oui, je pense qu'en plus, Jérôme, le problème aussi venait quand même que tu as la même puissance. Si ton critère, c'est la puissance, l'iPhone 8, et moi, je vous l'ai dit dans toutes mes vidéos de test de l'iPhone 8 et de l'iPhone 10, le vrai bon choix, si vous voulez changer d'iPhone cette année et prendre le dernier, c'est pas forcément de prendre l'iPhone 10, c'est plutôt, à mon avis, de prendre l'iPhone 8. Puisqu'il aura la même courbe de vieillissement que l'iPhone 10, et en termes de puissance pure, il fait la même chose. Et les petites modifs en photo, pour moi, ne justifient pas l'écart de prix. Et le Face ID non plus. La seule chose qui, pour moi, justifie le prix, mais là, je parle que de moi, c'est finalement d'avoir un grand écran dans un petit corps. Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, d'avoir retrouvé une taille normale de smartphone sans vraiment de compromis. Il y en a, il est un peu plus petit qu'un 8 Plus l'écran, mais quand même une surface d'écran acceptable. Dans un corps plus petit, c'est pour moi l'argument qui m'a fait garder le 10, pour l'instant. On verra bien, on verra bien. Allez, je continue, on va parler de Square. Square, la deuxième société de notre ami Jack Dorsey. Ouais, non, mais Damien, je comparais en fait dans ma tête l'iPhone 10 avec l'iPhone 8 Plus, donc avec double capteur aussi. L'intérêt d'avoir un smartphone plus puissant, moi je commence à le voir maintenant que je fais certains montages avec LumaFusion. Là pour le coup, faut avoir de la puissance dans ton smartphone. Mais c'est un usage très particulier du smartphone. Allez, on parle de Square, ouais, la deuxième société de Jack Dorsey, qui est aussi le CEO de Twitter, qui annonce, et ça aussi, hein, on parle encore des crypto-monnaies, mais vous savez qu'un des problèmes avec le Bitcoin, c'est qu'aujourd'hui, les transactions achetées ou revendues du Bitcoin peuvent avoir des délais très très longs, être surfacturées aussi. Il y a un problème de lenteur autour du Bitcoin. Eh bien, Jack Dorsey annonce que Square, avec leur service Cash App, va permettre d'acheter et de revendre instantanément du Bitcoin. On ne rentre pas dans les détails techniques et financiers de comment ils vont faire ça. Mais d'après ce que je lis, c'est quelque chose qui peut changer la donne, effectivement, donner plus de fluidité à l'achat et à la revente de ces bitcoins, peut être une des choses qui manquait. Là, on parle que du bitcoin. Hein. Manifestement, c'est que sur le bitcoin, cette histoire. Je voulais vous montrer, mais je ne sais pas si je vais arriver à l'ouvrir. Ça n'a pas l'air de vouloir ouvrir. Ah, fuck it. Mais alors, qu'est-ce que tu me fais là? Il est tout bloqué, mon iPad. Oula, ah oui, il est bien, bien planté. C'est rare. C'est-à-dire, on va me taxer d'Apple fanboy. Non, mais je vous dis la vérité vraie. C'est rare qu'un iPad. Ah non, il n'a pas planté. Je ne sais pas pourquoi, il a eu un gros lag. Qu'est-ce que c'est que ce site? Shady. Non, bah, il veut pas, en fait, non, c'est le lien qu'il n'aime pas. Bref, allez voir sur le compte de Jack Dorsey, qui d'ailleurs est arrobas Jack, hein, comme les premiers sur Twitter avaient le droit de choisir leur prénom. Ils ont mis en fait toute une petite animation, enfin, un texte illustré sur qu'est-ce que c'est que le Bitcoin, qui est pas trop mal fait. Mais pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir? What the fuck? Attends, j'ai essayé d'ouvrir dans mon navigateur. Cache-me. Merde. Putain, c'est quoi l'URL? C'est. J'ai perdu tout, mais. Ouh là 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 là, j'ai des problèmes. Bon, bref, vous irez voir sur le. Parce que là, on va perdre du temps. L'adresse, l'URL, c'est cache. C'est cache.me/bitcoin, c'est ça, je crois. Oui, cache.me/bitcoin. Tu es sur Facebook, ils ont ban les vidéos Bitcoin. Peut-être ça, peut-être ça. Non, là, c'est sur Twitter, a priori. C'est sur Twitter. Ah, et puis chaque fois que je clique sur ce lien, petit problème. Pas de pub pour le Bitcoin, Jérôme. T'as raison, faut pas que j'en fasse. Autre news intéressante, un chercheur français vient de lancer une initiative pour facturer 350 millions de dollars à Facebook pour l'utilisation de ses données personnelles pendant plus de 7 ans. Effectivement, un chercheur français a imaginé ce que Facebook devrait verser si le réseau social rémunérait tous ses utilisateurs pour le travail numérique invisible. C'est-à-dire qu'il estime, et je suis assez d'accord avec lui, que finalement, le fait qu'on utilise Facebook est une forme de travail déguisé, puisque par nos activités sur Facebook, nos activités sur le service Facebook, on permet à Facebook de faire de l'argent avec les données qu'on produit. D'une certaine façon, on pourrait faire un parallèle audacieux en disant que nous sommes des petits processeurs qui minons la base de données de Facebook pour la faire fructifier, la rendre de plus en plus performante et lui donner de la valeur ajoutée à la revente aux compagnies de marketing, revente de ce qu'ils peuvent extrapoler de nos données anonymisées. Même si elles sont anonymisées, c'est quand même nous derrière. C'est quelque chose dont je vous avais parlé il y a quelques mois. Et alors lui, il a carrément fait, vous avez accès à un module sur Google Doc, un petit sondage Google Doc, qui va vous permettre, vous aussi, de faire votre facture à envoyer à Facebook. Donc, en gros, vous allez pouvoir dire le nombre de jours que vous utilisez, le nombre d'heures que vous utilisez Facebook par jour, le pourcentage d'utilisation professionnelle que vous avez de Facebook, le nombre de jours travaillés que vous estimez avoir eu par rapport à Facebook. Donc, lui, par exemple, c'est 50 jours travaillés, il estime qu'il a eu avec Facebook. Depuis combien d'années? Lui, 7 ans. Donc, il estime que le nombre de jours travaillés pour Facebook est de 351 jours. Il estime que. Alors, c'est là où, en fait, j'ai un problème avec son calcul. Il estime qu'il devrait être payé 1 000 euros par jour pour les données. Pour le travail qu'il a fait pour Facebook. À part les avocats, il n'y a pas grand monde qui est payé 1 000 euros par jour. Là, quand même, voilà. En fait, c'est ça qui me dérange. Moi, j'aimerais, je trouve l'idée très bonne, Mais ce que j'aimerais vraiment savoir, c'est qu'on ait un calcul sérieux de quelqu'un sur combien valent nos données. Combien par jour rapportent nos données à Facebook. Ça m'étonnerait qu'on génère par personne 1000 dollars par jour de bénéfices à Facebook, ou même de chiffre d'affaires. Je sais que le calcul a déjà été fait, on en avait parlé justement, mais c'est dommage justement qu'il n'ait pas réutilisé, j'ai plus le chiffre en tête, parce que là, du coup, bah, il a un peu gonflé sa facture, moi je trouve. Oui, mais tu fais quand même, je veux bien, alors parlons franchement, je veux bien que le temps qu'on passe sur Facebook soit un travail. Partons de ce postulat-là. Est-ce que, et c'est là où son calcul est faux, il dit, mais j'y passe 2 heures par jour, et après, en gros, il facture 2 heures de boulot par jour, 1000 euros. Pas mal quand même, le boulot. Je sais qu'il y a des boulots qui sont facturés à ce prix-là. C'est peut-être des boulots qui demandent un petit peu plus de boulot que d'utiliser Facebook. C'est là où je trouve qu'il y a, il y a quelque chose de tronqué dans son calcul. Oui, oui, non, mais tu sais, il y a des avocats qui font même beaucoup plus que ça par heure. Hein. Après, ils ne facturent pas toutes les heures de leur journée. Mais oui, je sais, bien sûr. Mais soyez un peu lucide. Même si ce que vous faites sur Facebook, on peut dire, pourquoi pas, c'est un travail, est-ce que vous pensez que c'est un travail qui exige autant d'études, autant de travail, autant de compétences qu'un travail d'un avocat ou d'un truc de doctorat ou ce genre de choses? Quand même, hein. Cliquez, mettre des petits thumbs up, bon, bref. Donc, on va demander à être payé par Jérôme car on fait des vues et des abonnements en Naotech. Non, t'as pas compris. Moi, je ne vends pas vos données. Moi, vos données, je ne les collecte pas. Mon business n'est pas de vous faire des émissions gratuites avec une collecte de vos données que je vendrai derrière un service marketing. Mon business n'est pas la collecte de vos données. Mon business pourrait être éventuellement votre temps de cerveau disponible pour vous placer des publicités. C'est une partie d'ailleurs du business de Naotech puisqu'on met des pubs devant nos vidéos. Mais le business de Naotech n'est aucunement de récolter vos données. Non, tu ne pourrais pas me demander de l'argent du coup. Non, non, son raisonnement est sain, c'est, je trouve. C'est que quelque part, en fait, là où il est sain, et d'ailleurs, il le sait lui-même et il le dit lui-même, qu'ils ne vont pas le payer, il le sait très bien. Quelque part, il a fait ça pour sensibiliser les gens. Et moi, c'est quelque chose que je vous dis depuis longtemps. Vos données ont une valeur. Et en fait, tout ce que vous croyez des services gratuits ne sont pas gratuits. Et moi, ce que j'aimerais pour un monde plus transparent, plus éveillé, plus ouvert et plus compréhensible, c'est qu'on me dise, quand je m'inscris sur Facebook, « Bonjour Jérôme, voici les services que nous t'offrons et que nous avons développés pour toi. Nous allons te permettre de rentrer en contact avec tes amis, d'échanger. » Et honnêtement, ils ont des services qui sont géniaux. Google, ils ont des services qui sont géniaux. Voici comment tu vas nous payer ces services. Tu vas nous payer ces services avec tes données. Tes données qui, après avoir été anonymisées, seront revendues pour faire des études statistiques marketing afin d'affiner des plans marketing. Voilà comment nous on fait de l'argent et comment on peut te proposer des services que tu n'as pas à payer directement, mais que tu nous payes à travers tes données. C'est ça que j'appellerais un contrat sain sur Internet. Parce que Internet n'est pas putain de gratuit. Il n'a jamais été putain de gratuit. Internet coûte de l'argent à ceux qui diffusent, la bande passante, etc. Il est quelque part normal qu'on paye. Là où il y a une illusion, et je pense qu'elle fait beaucoup de dégâts aujourd'hui, c'est qu'on a eu l'impression de ne pas payer. Mais si, on a toujours payé avec nos données. Et quelque part, quand vous regardez mes émissions gratuitement, si vous ne donnez pas sur Tipeee, et attention, quelque part, c'est normal que vous regardiez les pubs. Moi, le travail que je fais pour vous, non, je ne m'énerve pas. Je suis juste... le travail que je fais pour vous, il faut bien qu'il soit payé. C'est un travail. Hein, qu'on ne me ressorte pas à YouTube, c'est de la passion. Parce que ça, c'est un discours de faux cul. Non, c'est pas putain de gratuit, c'est juste gratuit. Non, c'est pas gratuit. Vous payez. Vous payez avec vos données. Vous payez avec votre temps d'intention. TF1 n'est pas gratuit. Vous payez en regardant la publicité. Si j'avais un moyen technique pour ceux qui donnent sur Tipeee de vous enlever les publicités sur YouTube, je le ferais, sachez-le. Mais il n'y a pas de moyen technique de le faire. Je sais que ce terme de temps de cerveau disponible est choquant, mais il a le mérite d'être vrai. C'est repris dans les conditions générales, mais personne n'est dit. C'est bien ce que je reproche aux réseaux sociaux et à l'ensemble du web. C'est qu'on ne leur impose pas de faire un préambule de conditions. On ne sait pas pourquoi on signe, en fait. C'est ça le problème. Moi, tout ce que je dis, tout ça n'est pas malsain à partir du moment où on est transparent. Ce que je reproche à tout ça, c'est l'opacité. Et si on faisait une ronde autour d'un arc-en-ciel en écoutant du Bob Dylan? Mais Bob Dylan est un gros vendu de capitaliste en vendant ses putains d'albums, hein, de hippie. Tu nous la fais pas, Bob Dylan. On sait que tu baignes dans les dollars. Foutu hippie. Mollo sur Bob, hein, nous dit Tofu, hein, vous pouvez taper sur tout le monde, mais pas sur Bob Dylan, quand même. Faut pas déconner. Allez, on continue. En tout cas, je trouve que c'est une initiative intéressante d'un point de vue pédagogique et surtout de réveil des consciences. Tout ce que je dis, c'est qu'il faut être conscient de comment tout ça fonctionne. Allez, j'enchaîne, sinon j'arriverai jamais au dernier article et j'aimerais bien vous le montrer. Petite news, très, très rapide. Et Bob l'éponge, on peut taper dessus. Ah oui, ça, Bob l'éponge, je déteste Bob l'éponge. Désolé, hein, je vais choquer des gens, mais il me crispe Bob l'éponge. Il me crispe. En plus, je ne connais pas bien, parce que j'étais trop vieux pour regarder Bob l'éponge. Mais je suis épongeophobique, de toute façon. Demandez à Marion, je nettoie rien. Je peux pas. Les éponges, je peux pas. C'est le contact des... J'en fais des cauchemars. J'ai envie de regarder Thierry Lafronde. Ça, c'est dégueulasse, problème. C'est dégueulasse. Thierry Lafronde, à mon époque, Thierry Lafronde, d'abord, c'était quand même en noir et blanc. Hein. Moi, je n'ai pas été à l'époque de la télé. Alors si, quand je suis arrivé en France, il y avait encore il y avait des chaînes encore en noir et blanc. Mais j'étais vraiment tout petit. Et Thierry Lafronde était une super vieille série, quoi. En rediff. Elle était nulle, c'était nul. Babysitter Napoléon. Et arrêtez la chatroom, hein. Vous n'êtes pas gentil, hein, ce matin. De rire comme ça, hein. Attention, la ségrégation au niveau de l'âge. Attention, moi je peux vous attaquer, je vous colle un procès au pénal, hein. Bref, vous serez tous vieux de toute façon, ça je vous le prédis. Je pense qu'il faut focus vu l'heure, tu as raison Tofu. Juste pour vous dire, Mario Kart sort sur les smartphones. Trop bien, trop bien. En fait, personnellement, je m'en tape complètement. Je crois que j'ai joué deux fois dans ma vie à Mario Kart. Allez-y, assassinez-moi dans la chatroom. T'as pas joué à Mario Kart, mais c'est juste le meilleur jeu du monde. Ben non, j'ai pas trop joué avec Mario Kart. De toute façon, j'aime pas les jeux où on conduit, quoi que ce soit. Ça m'emmerde. Voilà. Désolé, hein, je vous casse vos fantasmes d'enfant. Mais j'ai très peu joué à Mario Kart. Donc moi, ça me fait... Mais je sais que ça vous fait plaisir que Mario Kart arrive sur les smartphones. Moi, je m'en tape, c'est tout. Marion, elle va être contente, parce que je sais qu'elle jouait beaucoup à Mario Kart quand elle était jeune. Jérôme s'arrêtait à Space Invader. Et franchement, je vais vous baffer. Hein. Vous arrêtez la chatroom. Je vous demande de vous arrêter. Putain, je suis en train de devenir le baladur du podcast. Ça craint. Et c'est pour quand? J'en sais rien. Avril, si, pardon. Putain, le mec, il a pas bien lu son article. Avril ou mars... attends. Ah non, ouais, non. J'ai lu l'article. Ils ont dit qu'ils allaient lancer Mario Kart Tour au prochain... dans la prochaine année fiscale, financière. Donc, ça veut dire quelque part entre avril 2018 et mars 2019. Lèche de la marge. Hein. En Marvel, c'est pas mal, j'aime ça. Marvel. Ça sort en Marvel 2019. Voilà. Pour être précis. C'est quand c'est là que ça sortira. Non, mais c'est cool. C'est quand même cool. On a des super bons titres Nintendo. Alors moi, ça m'en touche une sans en faire bouger l'autre parce que. Là aussi, je vais, ça va pas vous plaire, je vais perdre des abonnés, mais je suis pas très Mario. J'ai très envie, par contre, qu'ils sortent quand même le dernier Zelda. J'aimerais bien y jouer sur smartphone. Ça, oui. Mais sinon, je suis pas très, je suis pas très jeu Nintendo, quoi. Et c'est pas une question d'âge. Parce que quand j'étais plus jeune, tous mes potes, ils avaient des jeux Nintendo et tout. Et ça me faisait déjà chier, moi. Il n'est pas très Mario, il est plus Marion. Tout à fait. Enfin, ne parlez pas de plombier à Marion en ce moment. Juste un conseil. allez, on termine. Dernier article. J'ai une minute pour le faire. Ça ne va pas le faire. Je veux prendre le temps. Surtout, je veux vous montrer quelques images. C'est effectivement le prochain film de Steven Soderbergh, qui est, vous connaissez probablement, le réalisateur notamment de ses films les plus connus sont Ocean Eleven et Trafic. Trafic que j'aime beaucoup d'ailleurs comme film. Je sais qu'il a choqué beaucoup, mais je trouve... moi, je l'ai découvert avec Sexe, Mensonge et Videotape. Merde, c'était quoi le titre français? Sex, Lies and Videotape. C'était quoi le titre français? Sexe, Mensonge et VHS? Non? Je ne sais plus. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'avais découvert comme... Sexe, Mensonge et Vidéo. Oui, merci, c'est ça. Sexe, Mensonge et Vidéo. C'est effectivement un réalisateur qui a une manière de filmer. Il a un style et c'est quelqu'un qui est assez impliqué. Tous les réalisateurs ne sont pas des geeks de caméra. Il y en a qui sont connus, hein, comme George Lucas ou... Ah, merde. Barry Lyndon, c'est Coppola ? Putain, je vais me gourer. Non, Barry Lyndon, c'est pas Coppola, je dis n'importe quoi. C'est Kubrick. Putain, excusez-moi, hein, j'ai le cerveau à l'envers ce matin. Kubrick était un gros, gros geek de caméra, quoi. Kubrick aurait pu faire un podcast. Kubrick aurait fait SOS Shoot, je pense. mais tous les réalisateurs ne sont pas comme ça, mais Steven Soderbergh a toujours été assez geek avec les caméras. Pendant longtemps, il a été un des chantres justement des caméras RED dont on parle assez souvent. Et là, il annonce que son prochain film, Unsane, dont je vais vous passer quelques images pendant que je vous en parle, son prochain film, Unsane, a été entièrement tourné avec des iPhones. Il ne précise pas le modèle, hein, d'ailleurs, de l'iPhone, mais on voit la bande-annonce. On vous la regarderait en meilleure qualité chez vous. Mais on voit sa bande-annonce et tous les plans, voilà, tous les plans ont été tournés, effectivement, avec l'iPhone. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas fait ce choix de tourner à l'iPhone pour des raisons économiques, comme ça avait été fait avec Tangerine, qui est un film très bas budget. Et du coup, ils avaient tourné avec l'iPhone 5S, je crois, si mes souvenirs sont bons. Il l'a vraiment fait pour un choix artistique. Lui, il estime qu'aujourd'hui, les iPhones ont atteint un niveau de qualité qui, lui, trouve excellent et ont un rendu cinématographique important. Alors, là, il faut que je précise un certain nombre de choses. Moi qui m'y connais un tout petit peu quand même en caméra, il a raison et il a tort. En fait, il faut bien comprendre une chose. Quand on dit les smartphones sont d'excellentes caméras, ça dépend ce que tu veux faire. Ce que ne peut pas faire un smartphone aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, ça peut changer demain, mais aujourd'hui, un smartphone est aussi bon soit-il en photo et vidéo, un smartphone est incapable de vous donner des faibles profondeurs de champ. Et des faibles profondeurs de champ, beaucoup de bokeh, les flous d'avant et d'arrière-plan, c'est un style cinématographique chez certains réalisateurs. Regardez, quand vous allez prochaine fois au cinéma, regardez, beaucoup de réalisateurs utilisent ces faibles profondeurs de champ pour isoler leur sujet à l'image du fond et renforcer la compréhension de l'image. Si vous regardez les films de Soderbergh, et même Sexe, mensonge et vidéo, il fait partie de ces vidéastes qui, eux, au contraire, vont avoir quelque part ce qu'on appelait, qu'on peut encore appeler le rendu vidéo. C'est plutôt des réalisateurs qui vont travailler avec des grandes profondeurs de champ, où quasiment tout est net à l'image. On le voit, hein, d'ailleurs, dans son... Je continue à vous montrer du coup le trailer. Il isole plutôt ses sujets par des choix de composition de l'image. Mais vous voyez là le mur derrière, enfin vous ne voyez pas bien, mais là le mur derrière la nana, il est net. Donc, par rapport à votre appareil photo, c'est plutôt quelqu'un qui va tourner de F8 à F22 en ouverture avec ses caméras. Et là, pour le coup, le smartphone est excellent pour ça. Parce qu'un smartphone, autant il aura du mal à faire des faibles profondeurs de champ, autant il est très bon à garder tout net à l'image. Le fond comme le sujet de devant. Alors, ce n'est pas vraiment à l'iPhone, on me dit, parce qu'il utilise des objectifs, des stabilisateurs, ce genre de choses. Soit quoi je te rétorquerais, on pourrait dire à ce moment-là qu'il n'a pas vraiment tourné ses films avec une RED, parce qu'une RED, tu changes les objectifs, tu mets un stabilisateur aussi. On est en train de parler de boîtier. Et lui, c'est ce qu'il dit, et c'est ça qui est intéressant. Quand il parle de l'iPhone, il n'en parle pas forcément en termes d'optique ni de stabilisation, il en parle en termes de boîtier. Aujourd'hui, la plupart d'entre vous, et d'ailleurs, allez, je spoil, c'est ma prochaine vidéo, il va falloir qu'on commence à parler comme des pros. Et des pros différencient les boîtiers, des optiques, de la stabilisation. C'est pour ça, par exemple, que le GH5S n'a pas de stabilisateur. C'est parce qu'il n'en a pas besoin. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Parce que c'est une caméra qui est destinée à des réals pros qui n'utiliseraient jamais une stabilisation à la main et qui préfèrent le gain de qualité d'un stabilisateur non stabilisé, d'un capteur non stabilisé, à une stabilisation qui est pour eux juste bonne pour les reportages et les youtubeurs. Bref, le smartphone peut aujourd'hui être envisagé. Je sais, j'ai eu les mêmes critiques, hein, je me critique moi-même. Quand Kazenestat et d'autres ont fait des pubs tournées avec un Samsung Galaxy S9, j'ai fait bullshit, mon cul c'est du poulet, regarde, t'as mis un objectif Canon devant avec un adaptateur, t'es sur un stabilisateur qui est gros comme... Bref, t'as pas tourné ça à l'iPhone S9. Ce à quoi certains ont répliqué, ils ont raison. Si, il a tourné au Galaxy S9 à partir du moment où on considère que le Galaxy S9 est un boîtier. Et ça va être la même chose avec le smartphone que Red va sortir. En fait, ce qu'il y a d'intéressant dans la démarche de RED, c'est que pour les réalisateurs vidéo, ils prennent très au sérieux le fait qu'aujourd'hui, un smartphone peut être considéré comme un boîtier sur lequel on peut changer les optiques, sur lequel on peut ajouter un stabilisateur pour différentes choses. Vous savez, le stabilisateur, on n'en a pas besoin pour tous les plans hein, non plus. Net. Écoute, moi, de ce que j'ai vu du trailer, et je serais très curieux, parce que ça m'intéresse beaucoup, comment ils ont travaillé avec l'iPhone. Ce que je constate, c'est qu'on a, on le voit, hein, je vous montre, ces couleurs sont très, très contrastées. C'est-à-dire qu'on part vite dans les noirs. Il y a très peu de plages dynamiques. Mais c'est un style, c'est un style, c'est le style du réalisateur, c'est le style du film. Et pour ça, effectivement... les smartphones n'ont pas des plages dynamiques énormes non plus. Ça correspond assez bien. À regarder de près, moi, j'y ai pas vu un problème de piqué. Ça a un rendu, effectivement, un petit peu vieille caméra. Quand je dis vieille caméra, caméra d'il y a 10 ans. Donc, c'est un parti pris artistique aussi. Ce qu'il dit simplement, et c'est intéressant, c'est que les iPhones ont, d'un point de vue technique... produisent une image qui est intéressante d'un point de vue cinématographique. Si vous êtes dans le cinéma, dans la fiction, vous savez qu'une image, il n'y a pas une bonne image et toutes les mauvaises images. Il y a des manières de faire des images et un rendu qu'on veut à la fin. Bien sûr, il n'y a rien de neuf. Gondry, oui, mais Gondry, il a fait un film avec l'iPhone pour mettre en avant le fait qu'il faisait un film avec l'iPhone. Là, ce qui est intéressant dans la démarche de Soderbergh, c'est qu'il ne l'a pas tourné à l'iPhone pour faire de la pub. Alors, si, d'une certaine façon, mais quand même, sa démarche n'a pas été... C'est pas Apple qui lui a commandité un film tourné à l'iPhone. Peut-être qu'il y a eu un chèque, j'en sais rien. Mais la manière dont il en parle, c'est que c'est plutôt un choix artistique qu'il a fait de tourner avec l'iPhone. Oui, mais les caméras d'il y a 10 ans et même Transformers n'ont pas les qualités d'aujourd'hui. Tu sais, les boîtiers cinéma, regarde un peu ce qui se fait, quoi. Les boîtiers cinéma aujourd'hui, tu as des évolutions majeures tous les 2 ans, quoi. L'étalonnage a été fait en post-prod, mais il y a un truc qu'il faut comprendre, Amiel. C'est quand on fait du cinéma, on étalonne toujours. Vous n'avez pas un seul cinéaste, vous n'avez pas un seul photographe qui va vous montrer une image directement sortie de son appareil photo, à moins que ça soit un Polaroid, ou directement sortie de sa caméra. On étalonne toujours. C'est toujours étalonné, une image de cinéma. Il n'y a pas... Même les documentaires, demandez aux gens qui font des reportages, des documentaires, ils étalonnent aussi. Ça... Arrêtez de croire qu'une image est vraie parce qu'elle n'est pas étalonnée. Bref, moi, je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est une évolution intéressante. Est-ce que ça veut dire que tous les smartphones vont remplacer les caméras de cinéma? Mais que Denis, jamais de la vie. On va pas tourner un film de science... Quoique un film de science-fiction avec le smartphone, culotté. Mais c'est juste que les smartphones ont atteint un niveau aujourd'hui de qualité qui leur permet... On choisit une caméra aussi pour le style d'image qu'elle donne. Donc, ça peut être un outil pour les cinéastes. Et autant, il y a 2 ans, je vous dirais jamais, je vous aurais dit jamais, un smartphone ne va remplacer un appareil photo réflexe ou une caméra de cinéma. Je suis un petit peu plus circonspect cette année parce que j'ai vu certains trucs qui se préparent dans les labos qui sont « waouh ». En même temps, ce que je me dis toujours, c'est que la technologie sera adoptée par les smartphones, mais sera aussi adoptée par les caméras et les appareils photo. Donc, il y aura toujours une offre pro, chère, de caméras qui utiliseront. Mais aujourd'hui, n'importe qui peut faire un film de cinéma avec un smartphone, s'il en accepte les contraintes. Donc, il faut prendre avec des pincettes tout ce que tu dis. Ouais. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et c'est là-dessus que je terminerai à 9h11, ce qui est absolument scandaleux, ce Techscope, mais j'ai trouvé intéressant ce débat que nous avons eu à la fin. C'est qui d'ailleurs? Petite interro surprise. Qui a dit « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Ce que je ne sais plus en fait qu'il l'a dit. T'as des cheveux blancs. Ils sont pas. Arrêtez de croire que tous mes cheveux sont blancs. C'est une question d'éclairage. Ils sont pas blancs. J'ai des cheveux très, très, très clairs. Mais ça, c'est pas des cheveux blancs. C'est juste qu'il y a une lumière. Hein? Oui, la barbiche, là, je suis d'accord. Non, c'est pas Jean Gabin qui a dit ça. C'est Socrate? Vous êtes sûr que c'est Socrate? Moi, je croyais que c'était un philosophe des Lumières, mais c'est peut-être Socrate. Platon, Socrate? Non, non, mes cheveux sont pas gris. Regardez dans certaines vidéos. Putain, ouais, j'arrête de me justifier. Vous verrez dans les vidéos. J'en ai des cheveux blancs. Regardez, ceux-là, ils sont blancs. Voilà. Mais ça, c'est pas blanc. Enfin, ça le devient, mais ils sont pas encore complètement blancs. Oh, merde. J'ai pas les cheveux blancs, j'ai des cheveux clairs. Regardez PewDiePie, hein? Il a des cheveux blancs aussi à ce moment-là. Merde. Merci Geoffrey de remettre, tiens, le code Shadow PC. Si vous craquez pour un Shadow PC, utilisez notre code. Sachez d'ailleurs que maintenant, notre code, vous avez moins 10 euros. Si vous prenez un Shadow PC. Et Hippocrate a dit savoir, c'est la science, et croire savoir, c'est l'ignorance. Pas mal, pas mal. Bon, allez, est-ce qu'on a une question Platinium ce matin? On va faire un petit vide ton fac, hein, parce que je suis très en retard. J'ai pas de question Platinium ce matin. Non, PewDiePie, c'est pas la lumière, hein, il s'est décoloré les cheveux. Pas de question Platinium. Allez, go, posez vos questions dans le vide ton fac, j'y réponds le plus vite possible. On va faire ça façon mitraillette. Penses-tu que la production d'iPhone 10 va-t-elle s'arrêter cette année et considères-tu qu'Apple s'est planté sur ce dernier? Non, je me trompe peut-être, on va le savoir aujourd'hui. J'y crois pas à cette histoire d'Apple qui arrête. Peut-être qu'ils vont ralentir la production d'iPhone 10. Ils n'ont jamais arrêté la production d'un téléphone aussi rapidement. On verra. Mais j'y crois pas trop. J'y crois pas trop, on verra. Merde, ça va trop vite les questions. Ah, j'ai perdu. Y a-t-il une formule Shadow et Orange? Il y a une formule Shadow et Orange. Pas que je sache. Pas que je sache. Merci beaucoup pour ton super chat. Et tu nous demandes, Malik, quelle est ma langue maternelle? C'est l'anglais. En fait, je suis bien né en France, mais à même pas 2 ans, on a déménagé aux États-Unis. Donc la première langue que j'ai parlé, c'est l'anglais. Quel objectif micro 4 tiers conseilles-tu pour faire du portrait? Alors, ça dépend de ton budget. Moi, je sais que j'aime beaucoup le 42,5, donc qui donne une équivalence 85 mm, qui ouvre à 1,7. C'est mon objectif préféré. Il n'est pas trop cher, un très bon rapport qualité-prix. Si tu veux encore mieux, tu prends toujours le 42,5, mais cette fois 1,2. Mais il coûte 1 300 €, hein, l'objectif. Celui que j'ai testé un petit peu, on le voit dans une de mes vidéos. Là, pour le coup, c'est un gros objectif. Là, tu fais des portraits magnifiques, hein, pour du micro 4 tiers. Après, tu as l'option de mettre un speed booster et de prendre des objectifs Canon ou Nikon ou ce que tu veux. Moi, personnellement, pour obtenir plus de bokeh, je préfère allonger, au lieu de faire du 50 mm, de faire du 85 mm. Pour agrandir ma compression arrière derrière mon sujet et rester avec des objectifs natifs. Mais c'est moi. Voilà. Désolé, hein, j'étais un peu technique, mais. Alors. Ensuite, montre-nous un jour toute ta collection de mugs. L'armoire doit être bien blindée. Ouais, bah, il n'y a plus de place pour tous les mettre là. Hein. Il y en a dans ce placard-là, il y en a dans la cuisine. Montre-moi un jour. Moins 10 euros par mois. Non, c'est moins 10 euros pour ton abonnement. Ce n'est pas moins 10 euros par mois avec le code. Crois-tu que l'iPhone SE2 sortira? Oui, je pense. Ça s'appellera peut-être pas SE, mais je pense que Apple va sortir un smartphone avec certains composants du 8 et du 10. Un peu moins cher que ces deux derniers, je pense, oui. Jérôme, parle-nous en anglais 30 secondes pour nous prouver une bonne fois pour toutes que c'est ta langue maternelle avec ton accent d'Auvergnat de souche. Si tu écoutes Techscope régulièrement, il m'arrive d'intervenir en anglais. Je dis pas que j'ai pas perdu un petit peu mon accent. But I can still speak English quite fluently. I lost a lot of vocabulary, but I still can speak easily with anybody speaking English. Voilà. Est-ce que le test de 01net sur... Est-ce que tu as le test de 01net sur le dernier iMac Pro? Est-ce que j'ai regardé? Non, j'avoue que je ne regarde pas 01net. Ce n'est pas que je ne les aime pas, mais ils ne font pas partie des trucs que je regarde. Mais il a un accent quand il parle anglais. Bah, je vous rappelle que j'ai habité quand même aux États-Unis entre l'âge de 2 et de 7 ans. Après, on est souvent revenu en vacances. Mais bien évidemment, n'ayant pas travaillé non plus dans mon travail, j'ai peu l'occasion finalement de parler anglais. Oui, j'ai perdu un petit peu. Oui. C'est logique. Gondry avait précisé son matériel et logiciel. Ouais, mais j'aimerais vraiment... En fait, j'ai été coupé dans ma phrase. J'aimerais savoir s'ils ont travaillé avec Filmic Pro. Parce que moi, je sais que je travaille beaucoup avec Filmic Pro en ce moment, qui est assez impressionnant avec ce qu'on peut faire en images, notamment de pouvoir tourner en Vlog, c'est-à-dire en flat. Ça, du coup, ça transforme mon iPhone, là, Filmic Pro, en un... vous avez peut-être pas vu, mais la dernière vidéo que j'ai sortie, il y a pas mal de plans qui sont faits à l'iPhone. Il y en a qui sont faits au GH5, mais il y en a qui sont faits à l'iPhone. Filtre polarisant, un conseil? Non, je suis pas très fort en filtre polarisant, j'en utilise pas. Je devrais, mais j'en utilise pas. J'utilise des filtres ND, mais pas de filtre polarisant. C'est moins 10 euros par mois, Geoffrey? Oh, non. Pas. Si c'est ça, putain, c'est... Non, c'est pas moins 10 euros par mois sur ton Shadow. C'est moins 10 euros sur ton abonnement. Mais t'as pas moins 10 euros tous les mois, je crois pas, hein. Tu regardes qui en presse française? Pas grand monde. Numérama. J'avoue que j'aime bien Numérama. Zéro un net, ils sont nazes, arrête. Mouska, j'adore cette blague. Je la faisais en sixième. Mais elle reste toujours bonne. Quel est le produit que les gens achètent le plus avec l'affiliation Amazon? J'avoue que je regarde pas trop. Je sais que le petit micro Rode à 45 euros dont j'ai parlé, c'est très très bien vendu. Je sais pas après si c'est celui qui s'est le plus vendu avec mes liens d'affiliation. Faudrait que je regarde. Une bonne question. 01net est à la texte que BFM est au journaliste. Bizarrement, 01net. Attends, je ne m'exprimerai pas sur le sujet. Ah, tu filmes tes vidéos à l'iPhone? Vous en rendez pas compte parce que je fais pas de pub là-dessus. Mais oui, il y a énormément de séquences dans mes vidéos qui sont tournées à l'iPhone. C'est une caméra de poche géniale. Je n'ai pas toujours mon GH5 sur moi. Et certains plans... Vous voyez, je vous donne un exemple. Je suis en tournage. J'ai mis un 85 mm sur mon GH5. Je suis à un endroit où je trouve que le paysage est joli. J'ai envie de faire un travelling sur le paysage. Hein, plutôt que de changer mon objectif sur mon GH5, je sors mon iPhone, je fais mon travelling avec le grand angle natif de l'iPhone, je le mets dans la vidéo et vous n'avez rien vu. Parce que sur un paysage, j'ai pas besoin de faible profondeur de champ. Donc, pour faire ce genre de choses, j'estime que l'iPhone a une qualité largement suffisante, surtout maintenant qu'on peut tourner en flat avec des vlogs, donc avec les couleurs au minimum, pour pouvoir assortir les deux caméras en post-prod à l'étalonnage. Ah oui, pour moi, quand je dis que j'utilise mon iPhone comme outil de travail, je ne pipote pas, je l'utilise vraiment comme un outil de travail. Je pense qu'on va voir la confirmation de Filmic Pro à la conférence. Ouais, peut-être, effectivement, que tu veux dire qu'ils parleront de la réale du film avec Filmic Pro? Ouais, peut-être. Quand on tourne avec un filtre ND, on n'a jamais mis de pare-soleil. Ben non, quand on a le filtre ND, on peut pas. De toute façon, physiquement, on peut pas mettre de pare-soleil. Il faudrait qu'on mette des barnes d'or pour bien faire. Mais après, ça peut être aussi un style hein, de laisser la lumière taper de côté sur ton objectif. Mais vous parliez peut-être de filtre polarisant. Le truc, c'est qu'en vidéo, on a beaucoup plus besoin d'un filtre ND quand il y a du soleil que d'un filtre polarisant. En photo, ce n'est pas forcément le cas, mais en vidéo, oui. Le filtre polarisant en vidéo, on va surtout l'utiliser pour empêcher les reflets dans une vitrine ou un pare-brise de bagnole. L'iPhone 10 écran AMOLED, ça peut être bien pour économiser de l'énergie. Pourquoi pas des apps optimisées? Alors ça, j'en sais rien. Apple va freiner les innovations pour se concentrer sur la stabilité sur iOS 12 à cause d'iOS 11. Je sais pas. Oui, bah, c'est des pronostics intéressants. J'ai raté la question plus haut. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Ma question, please. Quel pare-soleil avec un filtre ND variable installé? Mais non, mais il n'y a pas de... Mais honnêtement, avec un filtre ND variable, je voudrais pas dire de bêtises, mais tu n'as pas besoin d'un pare-soleil. Alors, c'est dangereux parce que du coup, si ton objectif tombe, tu pètes tout. Mais d'un point de vue technique... Je ne voudrais pas dire de bêtises, il faudrait que je demande ça. Mais d'un point de vue technique, vu que tu contrôles la lumière qui rentre dans ton objectif, tu n'as pas besoin d'un pare-soleil, je pense. Ou en tout cas, beaucoup moins. ND et polarisant en même temps, ça existe? Je ne crois pas. Quoi qu'il me semble... Si, je crois que ça existe. Oui, d'après moi, Jérôme, on verra bien d'ici la suite sur l'iPhone et conférences de développeurs. Ouais, tout à la WWDC. Quand le soleil tape de côté. Ouais. Je pense quand même juste... Enfin, je... Avec un filtre ND, si le soleil tape de côté, sachant que tu as quand même toujours une épaisseur avec un filtre ND, je pense que les risques du soleil qui tape dans le mauvais axe sur ton objectif sont quand même moindres avec un filtre ND monté, je pense. Si tu devais choisir un smartphone sous Android pour remplacer l'iPhone, tu prendrais quoi ? Si je pouvais, je pense que je prendrais le Pixel 2. S'il était sorti en France, je prendrais le Pixel 2. Sinon, je crois que je prendrais le Galaxy Note 8. J'ai vraiment bien aimé le Galaxy Note 8 en photo. Il m'a vraiment fait plaisir. En vidéo, moins. Je pense que je prendrais le Galaxy Note 8. Je fais de la musique, pas du tout. Pas du tout de musique. Ouais, là, vous me lancez, vous me branchez photos et vidéos, ça va nous mener à 8h30, ça. Non, le LG V30, je ne l'ai même pas testé, d'abord, parce que LG... Ils me disent, oui, on te l'envoie, on te l'envoie. Je reçoit rien. Donc, il y a un moment, hein, je ne vais pas passer mon temps à courir après leur smartphone pour les tester. Hein, j'ai d'autres choses à foutre. Les retours que j'ai sur le LG V30 ne sont pas excellents en termes de vidéo. C'était dommage parce qu'il était... 9h30, oui, pas 8h30. C'est dommage parce qu'il était, était fort prometteur. Je crois que les résultats sont assez décevants. De ce que j'ai vu, hein. Allez, on va s'arrêter là, hein. Ça n'a que trop duré. Jérôme, sors de là, rentre chez toi, éteins la lumière. On va tester là le GH5S dès que j'ai le temps. On va vous expliquer, j'ai déjà le titre. La vidéo s'appellera « Le GH5S n'est pas fait pour vous ». Voilà, c'est le titre. C'est un appareil qui est absolument pas compris. Et notamment, cette absence de stabilisateur n'est absolument pas comprise. Donc, je vous l'expliquerai. Allez, je vous souhaite une excellente... Quelle application pour filmer avec son iPhone? Si tu es un peu pro, tu prends Filmic Pro. C'est vraiment top. Mais attention, hein, il est technique, hein, Filmic Pro. Il faut s'y connaître un petit peu. Allez, je vous souhaite une excellente journée. On se dit à demain. Soyez sages. Travaillez bien, glandez bien, jouez bien, dormez bien, mangez bien. À demain!